Il est 8h11 sur Radio Panique. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de mon invité de ce matin. Bienvenue Zoé Dubois.
Bonjour, merci.
Bonjour Zoé Dubois, tu es chargée de plaidoyer chez HACT. Et donc si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que comme tous les 24 avril depuis maintenant 11 ans, on célèbre, on commémore la catastrophe, pardon, du Rana Plaza qui a eu lieu au Bangladesh. Et donc le Rana Plaza, mais je pense que tu pourras le détailler, c'est cet immeuble qui est dans lequel travaillaient un certain nombre de femmes, surtout des femmes, je pense, et qui s'est effondré, causant de nombreux morts. Et donc, depuis, une série d'organisations un peu partout dans le monde, mais ici, à HACT, donc, se mobilise pour faire reconnaître la responsabilité des entreprises dans les conditions de travail tout au long de la chaîne. Mais donc HACT, c'est quoi exactement?
Mais donc HACT, c'est une organisation, donc on est une ASBL quoi, mais en fait on fait partie d'un réseau international qui s'appelle la Clean Clothes Campaign, et donc un réseau qui met en lien des ONG et des syndicats dans des pays de production de vêtements, avec des ONG et syndicats dans des pays qu'on peut dire à consommation, mais surtout des pays aussi dont sont originaires la plupart des grandes entreprises de fast fashion comme Zara, H&M, etc. Et donc, nous, on fait partie de ce réseau et on représente ce réseau d'une certaine manière en Belgique francophone. Et donc, l'objet de ce réseau, c'est de soutenir les luttes des travailleurs et travailleuses, mais c'est, comme tu l'as dit, principalement des travailleuses, pour leurs droits. Spécifiquement les travailleuses de la confection de la fast fashion. Et donc voilà ce qu'on fait.
Et ici en Belgique, c'est un réseau à HACT. Enfin, vous êtes une association, mais vous représentez, enfin, vous travaillez en réseau avec d'autres associations aussi qui œuvrent aux mêmes objectifs.
Oui, c'est ça. Donc, on est une association plateforme. Comme on dit dans le jargon. Et donc oui, on a toute une, les syndicats sont membres d'HACT, le CNCD, enfin toute une, je peux toutes les citer, mais toute une série à la fois d'ONG et de syndicats. Donc on retrouve aussi un peu la composition du réseau dans la plateforme d'HACT, quoi.
Et depuis donc c'est né, c'est pas né suite à la catastrophe du Rana Plaza. C'était déjà quelque chose qui existait avant.
Oui, c'est plus ancien. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on a appelé le mouvement anti-sweatshop, donc atelier de misère, qui lui remonte à bien avant le Rana Plaza. Mais c'est plutôt que le Rana Plaza, ça a été une catastrophe d'une telle ampleur que toute une série d'acteurs hors de ce mouvement-là ont commencé à s'intéresser à la question des conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses et des conditions de production, en fait, de manière plus générale, des vêtements.
Et tu parles des sweatshops, c'est aussi toutes les industries qui sont aussi dans les zones franches et ce genre de choses un peu partout dans le monde. Ce n'est pas qu'au Bangladesh ou en Asie, il y en a aussi.
Oui, tout à fait. Oui, et d'ailleurs les enjeux, enfin. On pourra revenir sur le Rana Plaza, mais tous les enjeux qui ont émergé pour le grand public, on va dire, au moment du Rana Plaza, sont des enjeux qui sont pas du tout propres ou spécifiques au Bangladesh, mais qu'on retrouve, comme tu le dis, dans toutes les chaînes de valeur, en fait, de l'industrie de la mode, enfin, et aussi, y compris en Europe.
Et justement, vous parlez de la campagne Vêtements Propres, donc la Clean Clothes Campaign. C'est aussi le reflet de cette mondialisation où on achète des produits ici à 2 euros, 5 euros et qui sont produits à l'autre bout de la planète. Et donc ce que veulent ces organisations qui font partie du réseau Achact, de la plateforme Achact ici et ailleurs dans le monde, c'est justement dire ben vous vous rendez pas compte des conséquences de l'impact de votre achat ou bien de toute la chaîne, d'où vient votre t-shirt à 3 euros que vous achetez ici dans un magasin à la rue Neuve ou autre.
Il y a clairement un travail de sensibilisation et sur les conditions de travail, mais la lutte, elle s'est surtout inscrite dans le fait de responsabiliser les entreprises qui tirent profit en fait de ce système-là et qui ont fondé aussi leur modèle économique en fait sur l'exploitation de travailleurs et travailleuses et de dire très basiquement en fait vous créez ces conditions de travail donc vous en êtes responsable et s'il s'avère que ces conditions de travail sont constitutives de violation des droits humains vous devez réparer les dommages qu'ont été causés parce qu'en fait il faut le système aujourd'hui de la fast fashion, c'est que plus aucune marque actuellement ne possède ses propres usines. Donc tout sous-traite ce travail-là à des usines qu'elles soient dans le même pays qu'elle ou dans des pays tiers. Et donc font produire par d'autres. Ce qui est un moyen évidemment du coup de faire produire dans des pays où les salaires sont souvent beaucoup plus bas et où les normes ou le système en tout cas de protection des normes est parfois plus faible, ce qui leur permet du coup de payer beaucoup moins cher parce que c'est ça le but premier, c'est et un peu la recherche, c'est toujours de payer le prix le plus bas. Mais à la fois, donc ça va leur permettre de payer beaucoup moins cher, mais ça va aussi leur permettre de se déresponsabiliser des conditions de travail en fait en disant ben en fait non, s'il y a un incident dans une usine. C'est pas mon travailleur, c'est pas ma travailleuse, c'est la travailleuse de telle usine. Et donc de ne porter aucune responsabilité là-dedans. Même si contractuellement sont pas des travailleurs H&M ou Zara, il se fait que c'est H&M et Zara à travers leurs pratiques d'achat qui vont conditionner les conditions de travail qu'on retrouvera juste derrière, c'est-à-dire que la plupart du temps, donc c'est un marché extrêmement concurrentiel où à la fois on a toute une série de pays qui sont devenus qui se sont un peu spécialisés dans le vêtement, c'est le cas notamment du Bangladesh et qui sont devenus du coup très dépendants de cette économie, donc qui doivent absolument continuer à attirer des investisseurs étrangers qui fassent produire chez eux parce que toute l'économie repose vraiment sur l'industrie de la mode et en même temps toute une série de fournisseurs dans ces pays-là qui sont concurrents entre eux pour pouvoir vivre en fait, enfin faire leur travail quoi. Et en fait ça fonctionne du coup de manière très flexible, les enseignes elles passent tout le temps d'une usine à une autre, d'un pays à un autre. Tous les X, on voit des nouveaux pays émerger aussi comme un peu des néo-Eldorado producteurs parce qu'en fait les conditions ils sont encore plus faibles, les salaires encore plus bas que ce qu'on peut trouver au Bangladesh ou au Pakistan ou en Sri Lanka qui sont des pays plus classiquement producteurs, on va dire. Et donc du coup, on a toute une série d'acteurs qui sont très dépendants des marques et elles qui peuvent du coup mettre une pression très très forte sur pour avoir des prix extrêmement faibles mais également des délais très courts et la plupart du temps, les contrats d'achat font que ce sont les producteurs qui assument tous les risques. Donc si il y a un problème, ça a été le cas notamment au moment du Covid par exemple où il y a eu un problème d'acheminement de matières premières parce qu'avec les différents confinements etc, il y a plus de matières premières qui arrivaient, donc plus de possibilités de pouvoir produire. Les enseignes ont juste annulé les commandes, elles les ont pas payées. On a toute une série de producteurs qui se sont retrouvés du coup sans moyen de faire fonctionner leurs usines et du coup pas de moyen de payer leurs travailleurs travailleuses non plus. Et donc nous c'est cette responsabilité là qu'on met en avant, c'est en disant en fait si vous ne payez pas correctement vos fournisseurs, on ne peut pas trouver de bonnes conditions de travail plus bas Et donc, vous avez la responsabilité de revoir vos propres pratiques d'achat et de les réfléchir de sorte qu'elles permettent des conditions de travail qui soient dignes et qui soient respectueuses des droits humains. Donc ça, c'est un peu notre cible principale, quoi, je dirais, de ce réseau. C'est avant tout vraiment les enseignes et leurs responsabilités. Et le fait de travailler en réseau, c'est aussi une manière de répondre un peu à l'éclatement de ces filières, parce que du coup, on a des chaînes ou des travailleurs et travailleuses, par exemple, du Bangladesh sont, devraient en fait être considérés comme des travailleurs H&M et Zara. Et ce qui leur permettrait aussi d'être en solidarité avec les travailleurs et travailleuses Zara, H&M, qui sont ici en Europe. Enfin, et donc, c'est aussi une manière de recréer cette chaîne et de dire, ben, en fait, non, tout le monde fait partie de cette même chaîne de valeur et donc doit pouvoir être solidaire entre eux et sont dépendants aussi de la même entreprise.
Et tu évoquais là la question des matières premières. Est-ce que cette responsabilité des entreprises, jusqu'où elle va justement, enfin ce que vous mettez en avant, parce que l'entreprise, l'atelier de confection Bangladesh, c'est un peu l'avant-dernier maillon de la chaîne, on va dire, avant le produit dans les mains du consommateur. Mais justement, est-ce que vous travaillez aussi, enfin, est-ce qu'il y a des liens avec les producteurs de coton, enfin, productrices de coton ou des tissus, quoi, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que du coup, c'est cette responsabilité de l'entreprise, elle se décline jusqu'au cultivateur.
Nous, c'est ce pour quoi on plaide. Après, la particularité de la Clean Clothes Campaign, enfin du coup d'Achact, c'est qu'on est vraiment sur un maillon très spécifique de la chaîne qu'est la confection. Après, on a parfois des campagnes qui vont plus loin, parce que notamment il y a eu toute une campagne sur le travail forcé, où un des gros enjeux c'était aussi la question des Ouïghours en Chine, où on sait qu'eux ont beaucoup aussi travaillé dans le coton, enfin dans les champs de coton, donc, et c'est aussi une campagne sur laquelle le réseau a travaillé. Mais toujours est-il que ce qu'on défend avec ce réseau-là, c'est une responsabilité, oui, qui s'étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc oui, aussi jusqu'au champ de coton.
Et comment, enfin, comme on le disait, la catastrophe du Rana Plaza, ça a servi un peu de détonateur pour mettre les acteurs en mouvement et faire en sorte qu'ils se mettent enfin autour de la table. Quel a été le processus? Qu'est-ce qui a été obtenu? Et 11 ans après, quelle est la situation?
Ça a eu assez clairement un effet de choc et ça a mis en lumière les conditions assez catastrophiques dans lesquelles ces personnes travaillaient. Et donc il y a eu des avancées vraiment assez significatives sur la question de la santé et de la sécurité dans les bâtiments. Donc vraiment sur cette question spécifique qui était vraiment endémique au Bangladesh, où la plupart des usines étaient dans des états vraiment catastrophiques. Et donc où il y avait régulièrement des incidents où des travailleurs et travailleuses trouvaient la mort. Et donc en fait, suite à l'effondrement du Rana Plaza, il y a eu, toute une série d'enseignes ont accepté de participer à un programme d'accord contraignant, donc qui lie les marques qui décident de participer à l'accord et les syndicats internationaux et locaux. Et qui est un accord tout à fait unique dans le secteur et qui était demandé de longue date des syndicats. Donc c'est pas quelque chose qui est apparu à ce moment-là, c'était demandé de longue date, mais à ce moment-là, toute une série d'enseignes ont accepté de signer cet accord. Et donc l'objet de cet accord, que toutes les enseignes qui participent à cet accord ont l'obligation de vérifier les conditions de salubrité des bâtiments dans lesquels elles faisaient produire une partie de leurs vêtements, mais également de participer financièrement à la remise en état de ces bâtiments. Et donc d'assumer en fait que oui, effectivement, si personne ne donne les moyens de réparer les bâtiments, les usines, elles fonctionnent à beaucoup trop court terme que pour pouvoir investir là-dedans. Et donc on reconnaissait la responsabilité des marques. Il y a eu 200 enseignes et des grosses enseignes, enfin plus de 200 qui ont participé à cet accord. Mais donc l'accord, il est vraiment limité à la question de la santé et de la sécurité dans les bâtiments et au Bangladesh. initialement, quoi. Mais c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi une formation des travailleurs et travailleuses, il y a un système d'alerte en cas de... si elle et eux repèrent des incidents potentiels. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment eu des avancées significatives. Il n'empêche que... Donc actuellement, en fait, donc cet accord qui s'appelait initialement l'accord Bangladesh, maintenant s'appelle l'accord international sur la santé et la sécurité. Donc c'est un nouvel accord, en fait, qui a été négocié, mais qui a été négocié assez âprement, parce que comme le Rana Plaza commence à dater, bah, c'était plus tellement au centre des préoccupations. Et donc les enseignes étaient plus si intéressées que ça de participer à cet accord-là. Donc ça a été quand même des négociations assez dures. Mais il y a un nouvel accord qui a émergé. Et surtout, il y a une négociation pour que cet accord soit étendu à d'autres pays, parce qu'en fait, le problème des usines, il se limite pas du tout au Bangladesh. On entend régulièrement en fait des incidents comme ça. Il y a 2 ans, il y avait eu des inondations au Maroc, notamment. Il y a eu régulièrement des incidents au Pakistan. Enfin, donc, il y a eu un accord de principe sur le fait qu'il fallait étendre ce système-là à d'autres pays, et c'est le cas maintenant du Pakistan aussi. Mais par contre, comme c'est un accord qui reste, une fois qu'on le signe, on est contraint de le respecter, mais ça reste volontaire là, d'y participer. Il y a toute une série d'enseignes qui refusent encore de participer à l'accord et qui considèrent qu'elles font des audits et que c'est amplement suffisant. Or, on pourra y revenir après, mais on sait que c'est pas le cas. Enfin, que les audits ne fonctionnent pas. Et donc là, nous, on a une campagne, par exemple, qui vise toute une série d'enseignes, notamment Levi's, pour pousser l'enseigne à signer cet accord. Donc à ce niveau-là, il y a des choses. Enfin voilà, ça a vraiment été des avancées assez significatives. Par contre, dans le même temps, les racines vraiment des problèmes et qui ont permis aussi le Rana Plaza, elles sont malheureusement toujours d'actualité. C'est-à-dire, ce qu'on identifie comme vraiment cause de ce problème-là, c'est également les salaires de misère que perçoivent les travailleurs et travailleuses, et la difficulté aussi, enfin la répression syndicale et la difficulté de pouvoir s'organiser, dans le sens où en fait la veille de l'effondrement du Rana Plaza, toute une série de travailleurs et travailleuses avaient vu que ça n'allait, enfin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que, enfin que le bâtiment n'était pas du tout sécurisé, et d'ailleurs il y avait d'autres secteurs qui étaient aussi dans ce bâtiment-là où des travailleurs et travailleuses n'ont pas été travaillés le jour de l'effondrement. Mais en fait, ils avaient des menaces de licenciement, des menaces de perte de salaire ou de vol de salaire s'ils n'allaient pas travailler ce jour-là. Et vu que tout le monde est dans un système de survie avec des salaires de misère, il y a un problème d'endettement chronique aussi souvent chez les travailleurs et travailleuses qui doivent s'endetter pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc... une impossibilité de pouvoir se permettre de perdre un travail ou perdre un salaire, ce qui fait que les travailleurs se sont sentis aussi obligés d'aller travailler ce jour-là, et aussi la question des syndicats qui auraient pu représenter les travailleurs et travailleuses pour pouvoir négocier sur cette question, sur la question de l'état de ce bâtiment-là, et ça c'est des enjeux qui n'étaient pas au cœur de l'attention au moment de l'effondrement. Et qui sont toujours d'actualité, et encore récemment, et qui sont pas du tout limités au Bangladesh. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays producteurs, et y compris en Europe, où les salaires sont souvent extrêmement faibles et permettent pas de subvenir aux besoins vitaux. Et on l'a vu encore, et les enseignes, en fait, quand elles sont pas forcées de le faire, elles détournent leur regard, et on l'a vu cette année, il y a eu des mobilisations très fortes au Bangladesh parce que tous les 5 ans, le salaire minimum légal est renégocié. Et il est très, très, très en dessous. Le salaire minimum légal est très en dessous du salaire vital. Il y a eu une mobilisation très forte de la part des travailleurs et travailleuses qui a été réprimée dans une violence inouïe. Il y a eu plusieurs morts. Il y a plus de 40 000 travailleurs et travailleuses qui sont aujourd'hui menacés de charges criminelles, pour avoir participé à ce mouvement. Et en fait, aucune enseigne ne s'est prononcée ouvertement en soutien de ce mouvement de ces travailleurs et travailleuses pour un salaire minimum légal qui corresponde, qui se rapproche péniblement d'un salaire minimum vital. Et elles se sont contentées, une fois que les négociations ont abouti à une augmentation ridicule, de dire qu'elles respecteraient le salaire minimum légal, et on les applaudit pour ça, alors qu'en fait, il s'agit juste de respecter le droit, enfin, ce qu'elles sont obligées de faire, en fait. Mmh. Enfin, donc voilà.
Et est-ce que dans ces pays, enfin, justement, les différents acteurs se renvoient un peu la balle et la responsabilité, les États qui disent, ben, c'est aux entreprises étrangères de payer mieux, les entreprises locales qui disent, ben, c'est à l'État à mettre en place instaurer un salaire minimum plus élevé, et là-dedans, les syndicats et les représentants des travailleurs et travailleuses sont un peu impuissants à faire face.
Oui, il y a clairement, enfin, en fait, on sait que, enfin, c'est l'acteur qui a le plus de pouvoir là-dedans par rapport à ça. Bon, évidemment, il y a l'État, il y a la responsabilité de l'État de réguler. Mais on sait que c'est quand même principalement les entreprises. Et elles, leur discours, c'est de dire, mais, nous, on respecte les lois locales. On peut pas faire plus que ce que les États font. Et parfois, c'est même plus cynique que ça, parce que elles reprennent une espèce de pensée critique en disant, mais qui serions-nous, nous, pour dire quelles sont les conditions, enfin, donc quelque chose qui est assez cynique. Mais donc oui, il n'y a pas une prise de responsabilité collective, et je crois que c'est là aussi que l'accord Bangladesh, et qui est maintenant l'accord sur la santé et la sécurité, est un exemple très intéressant et qui a fait ses preuves. C'est que c'est un accord où les enseignes reconnaissent qu'elles ont un problème collectif qui les concerne toutes, en fait, et qu'il y a un intérêt collectif à avoir des usines qui sont dans des meilleures conditions, parce qu'au final, elles protègent jamais que leur business, hein. Enfin, c'est une manière de redorer leur image aussi, mais bon, toujours est-il qu'elles participent à cet accord et que ça fonctionne. Plutôt que de gérer ça de manière individuelle, parce que de manière générale, depuis sur la question des droits humains et des droits du travail et la responsabilité des entreprises, ce que toutes font, c'est qu'elles adoptent des codes de conduite, qu'elles publient sur leur site internet, et parfois, on a l'impression de presque assister à une œuvre de charité de toutes les normes qu'elles respectent et qu'elles s'engagent à respecter. Elles disent qu'elles font des audits pour vérifier que ces codes de conduite sont bien respectés et que tous les fournisseurs qui travaillent pour elles doivent respecter ce code de conduite. Sauf qu'en fait, c'est des codes de conduite qui sont purement volontaires, c'est elles-mêmes qui les écrivent. Et ça devient leur problème individuel, et elles qui sont des entreprises particulièrement responsables et particulièrement diligentes, et d'ailleurs la preuve, elles ont un code de conduite, plutôt que de reconnaître que c'est un problème qui complètement systémique dans cette industrie-là, et pas que dans cette industrie-là d'ailleurs, mais c'est un exemple un peu patent de ce que la délocalisation peut donner de pire aussi. Et donc elles font un peu la publicité de toute une série de mesures qui sont parfaitement inefficaces, parce qu'en fait, comme je l'expliquais plus tôt, demander à une usine de payer correctement des travailleurs quand en fait le prix du t-shirt rend ça parfaitement impossible. C'est même pas la peine de lui faire signer un code de conduite qui dit qu'il s'engagera à faire l'inverse, parce qu'il a juste pas les moyens, en fait. Enfin, et ça, elles le savent très bien. C'est un truc sur lequel, notamment, le réseau Clean Clothes alerte depuis des années sur la question des pratiques d'achat et leurs conséquences. Et donc, il y a clairement un besoin de désindividualiser ces enjeux-là et de les recollectiviser, je sais pas. Et aussi de pouvoir redonner une vraie place aux syndicats, enfin, dans l'identification de ces enjeux et dans l'identification des solutions potentielles, quoi. Mmh. Parce que la voix des travailleurs et travailleuses, c'est celle qu'on n'entend jamais, en fait, alors qu'ils sont les plus à même d'identifier les problèmes dans leurs conditions de travail, quoi.
Oui. Et justement, ici, là, cet accord dont on parle, il se focalise sur le secteur textile, mais de manière plus globale, il y a aussi une volonté de mettre en place des législations sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises. Et donc, ça toucherait de manière plus large l'ensemble des chaînes de production des différents secteurs, que ce soit l'habillement ou autre. Où ça en est, ça, on en a un peu entendu parler là récemment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé par rapport à ça au niveau belge, mais aussi au niveau international?
Ouais. Oui, donc du coup, donc c'est donc voilà, donc une des revendications du réseau Clean Clothes, mais en fait, de toute une série d'autres réseaux dans d'autres secteurs depuis maintenant un certain temps, c'est d'avoir justement une législation qui impose aux entreprises du textile, mais les autres aussi, à prévenir dans un premier temps la potentielle survenance de violations des droits humains ou de l'environnement ou des droits sociaux dans leur chaîne de valeur. Donc les prévenir, ça veut dire identifier les risques et une fois qu'ils les repèrent, y remédier. Et en cas de non-respect de cette obligation, si une violation des droits humains survient dans leur chaîne de valeur et qu'elles ne peuvent pas démontrer qu'elles ont tout fait pour éviter cette survenance et qu'elles ont tout fait pour y remédier, offrir la possibilité aux victimes de ces entreprises de pouvoir les poursuivre en justice pour obtenir réparation des dommages qu'elles ont subis. Et ce qui est un point important aussi des revendications, c'est qu'elles puissent poursuivre les entreprises dans leur pays d'origine, parce que c'est là que se trouvent les avoirs. Et donc, pour pouvoir faire exécuter aussi le jugement, c'est assez important en fait que ça se retrouve dans les pays d'origine des entreprises. Donc ça, c'est une revendication qui est assez vieille et qui a connu un peu plusieurs étapes, parce qu'il y a ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations Unies, qui sont un peu qui sont des principes, donc qui sont pas contraignants, mais qui sont un peu une espèce de première pierre à l'édifice vers des législations qui soient réellement contraignantes, donc qui ont été adoptées en 2011. Et depuis, il y a un traité au niveau international qui est en négociation et qui va rentrer dans sa 10e année en octobre. Donc pour qu'il y ait vraiment que tous les pays s'engagent à responsabiliser leurs propres entreprises et à appliquer un peu ce principe de prévention et de réparation. Aujourd'hui, il y a une directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises qui doit être votée au Parlement européen. C'est une directive qui a connu une trajectoire un peu assez compliquée. Donc nous, on a participé activement au plaidoyer sur cette directive avec toute une série d'autres organisations. On s'en a un groupe qui s'appelle le groupe de travail Corporate Accountability, qui réunit les trois syndicats, les deux coupoles, enfin toute une série d'ONG autour de la question de la responsabilité des entreprises. Et donc au départ, c'est un texte qui a été proposé par la Commission européenne et qui est passé par, c'est des processus de négociation assez complexes au niveau européen qui doivent mettre d'accord la Commission, le Conseil, donc les États et le Parlement. Le texte doit être voté aujourd'hui. C'est pas la dernière étape, mais c'est une étape assez cruciale qui devrait normalement assurer que ce texte arrive vraiment voir réellement le jour, quoi. C'est un pas très important dans la lutte que nous on mène collectivement sur les enjeux de la responsabilité des entreprises. Par contre, il y a eu un lobby des entreprises très très fort sur ce texte et il a été assez considérablement affaibli. Donc on retrouve quand même le principe de responsabilité, on retrouve quand même la question de la possibilité d'ester en justice pour les victimes, mais les normes climatiques, le climat par exemple est très mal protégé. Il y a toute une série de secteurs extrêmement clés comme le secteur financier par exemple qui sont exclus du texte alors qu'ils ont un pouvoir d'influence aussi très très fort sur les autres secteurs. C'est aussi un texte qui vise que les très 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 grosses entreprises, donc il y a toute une série d'entreprises qui sont parfois actives dans des secteurs où on retrouve beaucoup de violations des droits humains qui sont pas concernées par le texte. Donc voilà, c'est un texte qui connaît toute une série de lacunes, mais qui a quand même le mérite d'exister et qui offre quand même des nouveaux outils à la société civile pour pouvoir lutter contre l'impunité des entreprises, parce qu'on est vraiment dans un système d'impunité en fait totale depuis toujours et qui s'est révélé avec les gros scandales industriels de ces 30 dernières années, a révélé un peu tout son potentiel de violence, quoi. Mais donc voilà, il y a cette directive qui doit être votée aujourd'hui. Et malgré les lacunes, ça reste une nouvelle vraiment très importante. Mais on a vu vraiment aussi au niveau, enfin, la force des lobbies aussi. Le texte a été aussi amendé à la dernière minute pour être affaibli. Donc ça a été un chemin assez houleux, quoi, pour aussi en suivant ce texte. Mais voilà, il y a quelque chose aussi d'hyper symbolique, le fait qu'il soit voté aujourd'hui. Nous, on organise une action aussi avec ACHACT aujourd'hui. C'est le cas chaque année pour la commémoration des victimes du Rana Plaza et rappeler en fait la nécessité d'agir et de soutenir les luttes des travailleuses du textile. Et donc, nous, on accueille quand même ce texte avec soulagement, quoi.
Et justement, la question que je me pose, c'est se dire, ben, ce texte, s'il est voté en version édulcorée, un peu affaiblie, est-ce que ça ferme toute possibilité de le renforcer par la suite?
Non, pas du tout. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a la question de comment est-ce que ce texte va être transposé au niveau national. Enfin, donc. Parce que comme c'est une directive, ça doit être transposé au niveau national. Donc il y a une possibilité, il y aurait une possibilité pour la Belgique de combler en tout cas certaines lacunes, pas toutes parce qu'il y a certains articles qui doivent être appliqués exactement de la même manière dans tout le marché européen, mais il y aurait une possibilité d'avoir une transposition qui soit plus efficace et en tout cas qui colle plus aussi aux obligations des États, parce qu'en fait en droit international, les États ils ont quand même une obligation de protéger les droits humains. Et ce qui veut dire en fait utiliser tous les outils qu'ils ont à leur disposition, qui sont notamment les législations, pour s'assurer que les droits humains soient respectés sur leur territoire ou sous leur juridiction, c'est-à-dire toutes les situations qui tombent sous leurs compétences, sur lesquelles ils peuvent avoir un impact, quoi. Et donc il y a une obligation aussi des États de réguler les entreprises. Donc il y a une possibilité d'améliorer le texte à ce niveau-là. Il y a des procédures de révision aussi au niveau européen, mais qui arriveront pas demain, mais qui sont aussi une possibilité d'amélioration du texte. Puis le texte va vivre dans les tribunaux aussi, donc il y a une jurisprudence qui va se développer aussi sur l'interprétation de ce texte et qui, je crois, là aussi va jouer un rôle potentiellement important. Et puis nous, ce pourquoi on plaide aussi maintenant, c'est parce que donc je parlais de ce traité international. Donc les négociations, donc elles vont arriver. Alors c'est la 10e année et en fait l'Union européenne, par exemple, ça fait 10 ans qu'ils ne participent pas aux négociations et donc ils n'ont pas voix au chapitre, mais donc ils ne défendent pas de position, mais donc ils aident pas non plus ce traité à voir le jour. Et donc maintenant que l'Union européenne a une directive, ça paraît enfin. D'autant plus injustifiable qu'elle ne participe pas activement aux négociations au niveau de ce traité. Et le traité aussi, il peut potentiellement améliorer ou renforcer, en tout cas, renforcer le texte européen.
Et une autre question que je me posais, c'était, on parle des tribunaux, et quels seraient les tribunaux qui sont habilités à se positionner et qui peut est-ce que c'est le consommateur qui peut intenter un procès, une action? Est-ce que c'est seulement ici en Europe? Est-ce que les travailleurs du Bangladesh pourront aussi intenter un procès s'ils s'estiment lésés, que ce soit au niveau des droits du travail ou au niveau de la responsabilité environnementale.
Donc l'idée c'est vraiment que ce soit les personnes affectées, quoi, par les entreprises qui puissent porter plainte. Donc par exemple les travailleuses au Bangladesh qui puissent porter plainte si c'est une entreprise belge qui est responsable, qui puissent porter plainte en Belgique pour obtenir réparation. Et donc ça, cette possibilité, elle est reconnue. Ce que nous on déplore dans le texte, c'est que en fait ce qui se passe souvent, c'est que le principe, donc a priori on parle de responsabilité civile, donc c'est les tribunaux civils. Après ça va dépendre un peu des États, parce que par exemple la France a une loi sur le devoir de vigilance depuis longtemps, Et c'est souvent des tribunaux commerciaux qui sont en charge de... Enfin, ça va dépendre de... Enfin, ça, c'est une vraie question, parce qu'en fonction de quel tribunal est en charge de... j'ai une hésitation sur ce que je viens de dire sur la France, donc je retire parce que je suis plus sûre. Mais... ça va être une vraie question. Si c'est le tribunal du commerce, c'est le tribunal civil, c'est pas la même chose, quoi. Mais ça, il n'y a pas encore vraiment de réponse à ça. Par contre, ce qui va être difficile et ce à quoi la directive a pas répondu, c'est la question de la charge de la preuve, parce que le principe en droit de la responsabilité généralement, c'est que si on accuse quelqu'un de quelque chose, on doit prouver qu'il a fait cette chose-là. Enfin, et donc la charge de la preuve est sur les épaules du demandeur, comme on dit dans le jargon juridique. Et nous, on plaidait très fortement, donc quand je dis nous, c'est avec notre coalition nationale, mais aussi au niveau international, pour un renversement de la charge de la preuve, parce qu'en fait, c'est les entreprises qui détiennent les informations qui permettent de déterminer dans quelle mesure est-ce qu'elles ont réellement tout mis en œuvre pour éviter que ce drame, enfin que un drame X ou Y arrive, quoi. Et que si on prend le cas du Rana Plaza, par exemple, on aurait pu les entreprises auraient dû démontrer ce qu'elles ont fait. On aurait constaté que rien, en fait, et du coup, on aurait pu leur reprocher leur manque de diligence, et ça les aurait obligés à réparer. L'irréparable aussi, mais enfin, en tout cas, de dédommager les victimes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été retenu dans le texte, qu'on n'a pas réussi à conserver. Ça reste un obstacle, conséquent dans l'accès à la justice pour les victimes, parce que elles ont souvent pas accès à cette information-là, qu'il y a aucune transparence aussi sur les filières, donc c'est déjà, et que c'est, la question de la transparence se trouve pas dans la directive non plus, donc ça reste un enjeu très central de la filière, parce qu'en fait, sans transparence, parfois on ne sait juste pas qui sont les entreprises derrière les vêtements confectionnés. Et que ça reste des procès qui opposent des parties qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, quoi. Enfin, et donc, c'est pas tous les enjeux sont pas réglés, mais il y a la question des consommateurs, mais la directive s'adresse pas vraiment aux consommateurs. Il y avait déjà des possibilités pour les consommateurs et consommatrices de porter plainte pour publicité mensongère, par exemple, quand une entreprise dit que elle respecte les droits humains et qu'en fait, il s'avère que c'est pas le cas. Et il y a plusieurs cas quand même de ces 20 dernières années d'entreprises qui ont été poursuivies sur cette base-là. Il y a notamment un cas assez emblématique de Nike qui avait été poursuivi en Californie, basé sur le droit des consommateurs et consommatrices, et qui a fini par accepter de créer un fonds de dédommagement pour des travailleurs et travailleuses. Donc ça, c'était déjà le cas depuis plusieurs années. Mais ça posait un peu le problème que ça réglait pas le problème des. Enfin, allez, ça permet de mettre pression sur une entreprise et ça permet de mettre en lumière un modèle économique fondé sur une forme d'exploitation, mais ça permettait pas aux travailleurs et travailleuses de faire entendre leur voix et d'obtenir réparation. Et donc là, la directive est pas tellement question de ça, mais il y a d'autres lois qui le permettent, quoi. Notamment la publicité mensongère.
Et au niveau belge, du coup, est-ce qu'il y a une possibilité qu'une loi soit votée au niveau belge?
Ouais, mais du coup, il y avait une loi là qui était en négociation depuis presque 4, au moins 3 ans, je pense, maintenant. Donc une proposition de loi sur le devoir de vigilance des entreprises qui a été déposée avant la directive, enfin juste avant la directive, enfin la proposition de directive, ou j'ai plus la temporalité exacte parce que tout s'est un peu chevauché, mais donc qui était assez qui était une assez bonne proposition, quoi, qui reprenait toute une série d'enjeux que nous, en tant que société civile, on trouvait vraiment essentiels, donc qui émanaient du PS au départ et auxquels se sont ralliés après toute une série d'autres parties, mais qui a pas pu aboutir. notamment parce qu'il y a un blocage total de la part du maire sur ce texte-là. Et aussi qu'il y a eu un peu du coup ce jeu de... Parce que un des grands arguments aussi des libéraux pour ne pas adopter de loi au niveau national, c'était de dire en fait ça ne peut pas se jouer au niveau national, il faut que ça se joue au niveau européen. Parce qu'en fait c'est pas un problème belge, c'est un problème qui est plus global et que fait la Belgique là-dedans, blablabla. Et donc comme il y avait le texte européen en même temps, ça, enfin, je crois que ça a participé aussi à rendre l'aboutissement de ce texte un peu compliqué. Mais du coup maintenant la loi sera nécessairement une loi de transposition de la directive. Donc cette loi-là, enfin, qui est mieux que la directive, enfin, ce sera pas cette loi-là qui sera adoptée pour transposer, quoi. Enfin, mais par contre, c'est un travail qui a déjà été mené et qui est pas du tout, enfin, voilà, qui existe, mais maintenant ça va être le combat va plutôt être sur la loi de transposition.
Ouais. À venir, donc. je vois que le temps passe. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a aussi une campagne dont on n'a pas encore vraiment parlé, notamment autour de Lévis.
Oui, c'est vrai que je t'en file. donc aujourd'hui, on organise une action à la place de la Monnaie de 11h30 à 12h30. Et donc il y a une action, donc comme je disais, chaque année la société civile, enfin, et à chaque surtout en particulier, organise une action de commémoration et aussi en soutien à des revendications. Et donc cette année-ci l'action elle vise spécifiquement Lévis parce que Lévis refuse de signer ce fameux accord sur la santé et la sécurité dans les bâtiments en disant que ses codes de conduite et que ses audits sont amplement suffisants, donc se refuse vraiment à signer cet accord. C'est pas la seule enseigne, hein, y en a d'autres, c'est le cas d'IKEA aussi, de Decathlon, enfin ils sont toute une série, mais l'action aujourd'hui elle vise spécifiquement Lévis. Il y a une pétition en cours en fait qu'on peut trouver aussi sur notre site internet achact.be. donc il y a une pétition en cours aussi qui vise Lévis et qui est une pétition qui est pas juste en Belgique, qui est internationale, pour demander à Lévis de signer cet accord et de rejoindre cet accord international. Et en même temps, et donc oui, évidemment, c'est aussi, on fait cette action aujourd'hui aussi parce que c'est en lien évidemment direct avec la commémoration de l'effondrement du Rana Plaza. Et puis il y a le lien aussi avec la question du devoir de vigilance, c'est-à-dire que le jour où on vote une loi qui est censée une directive qui est censée responsabiliser les entreprises sur les conditions de travail, on a un géant de la mode qui se refuse à participer à un accord qui est une forme de mise en œuvre de ce fameux devoir de vigilance, quoi. C'est une manière de, tiens, tous les risques dans la mode, quels sont-ils? Ah, notamment la santé et la sécurité, que puis-je faire en tant qu'enseigne pour prévenir des dommages? Participer à l'accord santé et sécurité. Donc ça, c'est un peu le message aussi, c'est de dire, en fait, cet accord, il fonctionne, c'est une demande des travailleurs et travailleuses qui émane de leur part au Bangladesh et au Pakistan aussi, maintenant, aujourd'hui. Et en fait, au moment où une directive est signée, il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités et participent à ce type d'accord. Et donc voilà, c'est une action qui se tiendra Place de la Monnaie. Et donc, il vise à interpeller Lévis.
Ok. Eh bien, rendez-vous là-bas. Merci beaucoup, Zoé, d'être venue en studio ce matin.
Merci.
Et rendez-vous à 11h30 à la Place de la Monnaie. Et sinon, n'hésitez pas à aller en ligne, signer la pétition, en tout cas sur le site achact.be et vous informer.
Ouais.
Merci beaucoup et bonne journée à toi.
Ouais, merci pour l'invitation.
Merci. Et on va poursuivre en musique et je vous propose de continuer cette playlist portugaise et je ne pourrais pas quitter sans faire écouter Grandola Vela Morena, la chanson qui... diffusée le 25 avril 1974 à minuit, enfin à 000 heures, a déclenché le processus de la révolution des œillets. C'est la version de José Afonso.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.